7.
Antoine n'avait pas renoncé à son premier projet, qui était de prévenir la concentration des forces d'Octave en portant la guerre en Italie. Mais il avait perdu bien des jours. Au printemps de l'année 31, ses troupes et ses escadres étaient massées à Actium, à l'entrée du golfe d'Ambracie. Il prenait ses dispositions pour le départ lorsqu'il apprit que des vaisseaux romains rangeaient la côte d'Épire. Ce n'était que l'avant-garde de la flotte d'Agrippa, mais la présence de cette avant-garde dans les eaux grecques prouvait que les préparatifs d'Octave étaient très avancés, sinon terminés. L'heure de le surprendre était passée. Antoine se décida à attendre pour adopter un nouveau parti, que les Romains eussent dessiné leur plan de campagne. La flotte et l'armée restèrent à Actium. Comme le séjour en était ennuyeux et malsain, Antoine vint à Patras avec Cléopâtre. Dans les premiers jours du mois d'août, il reçut la grave nouvelle que la flotte romaine venait de jeter l'ancre sur la côte d'Épire, que les troupes débarquaient et que déjà Octave était à Taurine. Antoine partit sur le champ pour Actium, fort ému et fort mécontent que l'ennemi eût pris position si vite et si facilement. Pendant le trajet, Cléopâtre le plaisantait sur ses inquiétudes. « Quel grand malheur, dit-elle, qu'Octave soit assis sur une cuillère à peau. » En grec, taurine veut dire « cuillère à peau ». L'armée d'Antoine, composée de 19 légions, de 12 000 chevaux et de nombreux auxiliaires ciliciens, paphlagoniens, cappadociens, juifs, mèdes, arabes, s'élevait à 110 000 hommes. Sa flotte comptait près de 500 vaisseaux, à 3, 5, 8 et 10 rangs. Ces derniers, construits en Égypte, étaient de véritables citadelles flottantes, surmontées de tours et munies de puissantes machines de guerre. Octave avait 80 000 fantassins recrutés en Italie, en Sicile, en Espagne et dans les Gaules, 10 000 cavaliers et seulement 250 navires, tant trirèmes à éperons que liburnes légères. Si les armées de terre présentaient un effectif à peu près égal, la disproportion était énorme entre les forces navales. Mais les navires d'Octave pouvaient compenser leur grande infériorité numérique par les qualités manœuvrières et l'excellence des équipages qui tous avaient fait sous Agrippa la longue guerre de Sicile. Au contraire, les gens de mer d'Antoine n'étaient pas en nombre suffisant et la plupart allaient combattre pour la première fois. Ces massifs vaisseaux évoluaient difficilement. La mer, dit l'hyperbolique Florus, gémissait sous leur poids et le vent s'épuisait à les mouvoir. Les Antoniens occupaient la pointe nord de l'Acarnanie, près du promontoire d'Actium, avec un fort parti détaché sur la côte d'Épire qui y faisait face. Solidement établis dans des retranchements élevés pendant l'hiver, ils commandaient la passe étroite du golfe Ambracique, où mouillait leur flotte. Octave avait assis son camp en Épire, à peu de distance du poste avancé de l'ennemi. Antoine avait une excellente position défensive qui lui permettait de braver indéfiniment les attaques des Romains, car la passe d'Actium était inforçable. Mais il se trouvait bloqué du côté de la mer, d'où lui arrivaient presque tous les approvisionnements. Les deux armées restèrent plusieurs jours en présence. Octave, désireux de livrer bataille, s'efforçait par toutes les démonstrations d'engager son adversaire dans une action sur terre ou sur mer. Antoine, inquiet, troublé, indécis, ne pouvait se décider à prendre un parti. Il embarqua la plus grande partie de ses troupes et les fit passer sur la côte d'Épire comme pour attaquer le camp romain. Puis il se ravisa et les fit repasser en Acarnanie. Les officiers d'Antoine, augurant mal des qualités tactiques de ces monstrueux vaisseaux et pleins de confiance au contraire dans la valeur de leurs légionnaires, lui conseillaient de donner la bataille sur terre. C'était le désir des soldats. Dans une inspection, il fut interpellé par un vieux centurion tout couvert de cicatrices. « Ô empereur, te défies-tu donc de ces blessures et de cette épée, que tu mets tes espérances dans des bois pourris ? Laisse les hommes d'Égypte et de Phénicie combattre sur mer. mais à nous autres, donne-nous la terre où nous sommes accoutumés à tenir ferme et où nous savons vaincre ou mourir. » Mais Antoine était troublé par des présages sinistres. Dans plusieurs villes, la foudre avait renversé ses statues et celles de Cléopâtre. Albe, une statue de marbre qu'on avait érigée au Triumvir, fut inondée de sueur. Signe plus effrayant encore, dit Plutarque, des hirondelles ayant fait leur nid sous la poupe de l'Antoniade, la galère amirale de Cléopâtre, il y survint d'autres hirondelles qui chassèrent les premières et tuèrent leurs petits. Des défaites répétées dans des escarmouches aux environs d'Actium, l'abandon de Domitius à Enobarbus, qui passa soudainement à l'ennemi, la défection de deux rois alliés, qui quittèrent l'armée avec leurs troupes, confirmèrent ces mauvais présages dans l'âme superstitieuse d'Antoine. Il doutait du succès. Il doutait de ses amis, de ses soldats, de Cléopâtre elle-même. À la voir triste, sans courage, en proie de sombres préoccupations, car elle aussi pensait aux hirondelles de l'Antoniade et aux statues foudroyées, il s'imagina qu'elle voulait l'empoisonner pour gagner par ce crime la faveur d'Octave. Pendant plusieurs jours, il ne prit aucune boisson, aucun aliment qu'elle ne les eût goûté d'abord. Par pitié pour son amant, Cléopâtre se prêtait de bonne grâce à ce caprice. Un soir, pourtant, à la fin du repas, elle détache une rose de sa couronne et les feuilles dans une coupe qu'elle tend en souriant à Antoine. Celui-ci l'approche de ses lèvres. Elle l'arrête et fait boire le vin empoisonné à un esclave qui roule sur le tapis, se tordant dans des douleurs mortelles. « Oh, Antoine ! S'écrie Cléopâtre. « Quelle femme tu soupçonnes ! Vois que les moyens ni les occasions ne me manqueraient pour te tuer, si je pouvais vivre sans toi. » L'inquiétude et l'abattement gagnèrent l'armée, campée dans un lieu malsain et commençant à manquer de vivres. Un jour, Canidius lui-même, jusque-là si ardent à combattre, conseilla d'abandonner la flotte et d'aller guerroyer en Thrace, où Dicôme, roi des Jettes, promettait d'envoyer des renforts. Mais qu'avait-on besoin de renforts, puisqu'on était supérieur en nombre à l'ennemi ? Cléopâtre ouvrit un autre avis, sinon moins honteux, du moins plus sensé. Fuir pour fuir, mieux valait gagner l'Égypte que la Thrace. Elle proposa de laisser une partie des troupes en Grèce pour tenir garnison dans les villes fortifiées, d'embarquer les autres sur les vaisseaux et de faire voile vers l'Égypte en passant au travers de la flotte d'Octave. Après de nouvelles hésitations, Antoine adopta ce projet, bien qu'assurément il lui répugnât de fuir devant une armée dont il méprisait le chef. Tout porte à croire d'ailleurs qu'Antoine espérait détruire la flotte romaine dans le combat naval qu'allait nécessiter la sortie du goulet d'Actium. S'il avait la victoire, il serait maître de regagner sa station et d'attaquer l'armée d'Octave démoralisée, si le combat restait indécis, car, avec une flotte aussi puissante, il ne pouvait admettre l'hypothèse d'une défaite. Il cinglerait vers l'Égypte. La retraite ne serait qu'un pis-aller. La désertion et les maladies avaient beaucoup diminué la chiourme. Antoine se décida à brûler 140 vaisseaux pour compléter avec leurs équipages ceux du reste de la flotte. 22 000 légionnaires, auxiliaires et frondeurs furent embarqués. Afin de ne pas enlever le courage aux soldats et aux gens de mer, on leur cacha que ces préparatifs de combat étaient plutôt des préparatifs de retraite. Le secret fut si bien gardé que les pilotes s'étonnèrent de recevoir l'ordre d'emporter les voiles. Ils rappelèrent que pour combattre, on manœuvrait seulement à la rame. Antoine fit répandre le bruit que l'on prenait les voiles afin de mieux poursuivre l'ennemi après la victoire. Le 2 septembre, au matin, les vaisseaux d'Antoine, formant 4 grosses divisions, franchirent le chenal d'Actium et, après avoir débouché, se rangèrent en bataille face à la flotte d'Octave, qui les attendait à 8 ou 10 stades du rivage. Du côté des Antoniens, l'aile droite était commandée par Antoine et Publicola. Le centre, par Marcus Justeius et Marcus Octavius. La gauche, par Caelius. Cléopâtre se tenait en réserve avec 60 vaisseaux égyptiens. Du côté des Romains, Octave commandait l'aile droite, Agrippa l'aile gauche et Aruntius le centre. Vers midi, l'action s'engagea. Les troupes de terre, qui se tenaient en armes et immobiles près du rivage, ne virent pas, comme dans les autres combats, les galères fondre les unes sur les autres en cherchant à se frapper avec les éperons d'airain. À raison de leur marche lente, les lourds vaisseaux d'Antoine ne pouvaient donner de la proue avec cette impétuosité qui fait la puissance du choc. Et les légers navires des Romains craignaient de briser leur rostre contre ces énormes bâtiments, construits de fortes poutres reliées par des côtières de fer. C'était comme une succession de sièges, comme un combat de citadelles mouvantes contre des tours mobiles. 3 ou 4 galères romaines se réunissaient pour attaquer un seul des vaisseaux d'Antoine, si grand, dit Virgile, qu'on eût cru voir les Cyclades nageant sur les eaux. Les soldats jetaient des grappins, lançaient des flèches enflammées sur les tillacs, attachaient des brûlots aux carènes, montaient à l'abordage, tandis que les puissantes batteries, disposées au sommet des tours du bâtiment attaqué, faisaient pleuvoir sur les assaillants une grêle de traits et de pierres. Tout d'abord, l'aile droite romaine, commandée par Octave, plia sous l'effort de la division de Caelius. À l'autre extrémité du champ de bataille, Agrippa, ayant dessiné un mouvement tournant pour envelopper Antoine et Publicola, ceux-ci marchèrent par leur droite et découvrirent ainsi le centre de la ligne. Les rapides Liburnes en profitèrent pour aborder les vaisseaux des deux Marcus, derrière lesquels se trouvait la réserve de Cléopâtre. Succès et échecs se compensaient. Dans les deux parties, on combattait avec une égale fureur, et la victoire restait incertaine. La nervosité de Cléopâtre allait tout perdre. Depuis plusieurs heures, elle était dans la fièvre et dans l'angoisse. Du pont de l'Antoniade, elle suivait anxieusement des yeux les mouvements des vaisseaux. D'abord, elle avait espéré la victoire. Maintenant, épouvantée par le tumulte et les clameurs, elle ne souhaitait plus que fuir. Elle attendait avec une impatience qui s'accroissait de minute en minute le signal de la retraite. Soudain, elle voit l'aile droite s'éloigner vers la côte d'Épire, l'aile gauche gagner le large, et le centre qui la protège, attaqué, abordé, désuni, rompu, percé par les Liburnes romaines. Alors, pâle de sa mort prochaine, Palliens morte futura, n'écoutant plus que sa peur, Cléopâtre fait hisser les voiles, et avec ses 60 vaisseaux, elle passe au travers des combattants et s'enfuit vers la haute mer. Au milieu du combat, Antoine aperçoit le mouvement de l'escadre égyptienne. Il reconnaît les voiles de pourpre de l'Antoniade. C'est Cléopâtre qui fuit en lui enlevant au moment décisif sa puissante réserve. Mais la reine n'a pu ordonner la retraite. C'est lui seul qui en devait donner le signal. Il y a une méprise, un faux mouvement, une panique. Antoine fait à son tour hisser les voiles de sa galère. Il s'élance à la suite de Cléopâtre. Il ramènera les vaisseaux égyptiens et rétablira les chances de la bataille. Mais, avant de rejoindre l'Antoniade, le malheureux a réfléchi. Cléopâtre l'a abandonné par lâcheté ou par trahison. Il ne ramènera à Actium ni elle ni ses vaisseaux. Il pense à retourner au combat qui n'est plus qu'une déroute, pour se faire tuer avec ses soldats. Mourir sans revoir Cléopâtre, il ne le peut pas. Une force fatale l'entraîne sur les traces de cette femme. Il aborde l'Antoniade, mais alors la honte de lui-même l'envahit. Il refuse de voir la reine. Il va s'asseoir à la proue du vaisseau et y reste 3 jours et 3 nuits, la tête dans ses mains.